Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, voilà 40 jours que vous avez goûté à la fête de Pâques. On l'oublie parfois, il y a 40 jours pour se préparer à Pâques, et vous vous en souvenez, les 40 jours de pénitence, mais il y a aussi 40 jours pour jouir profondément de cette joie qui nous est faite du Seigneur ressuscité. Et maintenant, nous tournons nos yeux vers le ciel, lui qui vient de s'élever auprès de Dieu, là où il était avant. Alors, il nous reste encore à savoir quoi faire. Tout d'abord, je vous propose de voir le Christ qui s'élève au ciel, tout simplement, et dans un second temps, de voir ce qu'il nous reste à faire, nous qui avons les yeux tournés vers le ciel. Tout d'abord, le Christ s'élève au ciel. C'est une réalité historique et c'est une réalité théologique. Je me permets de le dire car, évidemment, il se trouve toujours des esprits chagrins pour se dire que c'est un peu trop extraordinaire pour que ce soit vrai. Bon, eh bien, de toute façon, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre s'est en allé d'une manière exceptionnelle, comme il aurait d'ailleurs dû venir, comme on l'attendait depuis tous les siècles, descendre du ciel, c'est le propre de Dieu. En soi, il n'y a rien d'extraordinaire pour lui, c'est uniquement extraordinaire pour nous. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque nous sommes le centenaire de Fatima, il se trouve que Lucie, la petite voyante, plus tard, quand elle raconte comment la dame s'est élevée au ciel, eh bien, elle le dit exactement de la même façon, « J'ai vu la belle dame être élevée au ciel jusqu'à disparaître dans les cieux. » Et si je le dis, évidemment, c'est un miracle qui n'a pas la même importance, car ici, il s'agit du Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce miracle-là, plus de 50 000 personnes en ont été les témoins, parmi lesquels de nombreux athées, de nombreux matérialistes qui étaient venus justement pour s'assurer que tout ça, c'était des fadaises et que ce n'était pas possible. Les dites personnes ont amplement témoigné par écrit du miracle qu'ils ont vu. Il n'y a rien d'extraordinaire pour eux, pour le Seigneur, mes bien chers frères, en un somme, qu'ils soient montés au ciel. Voici la réalité historique qui nous est donnée de contempler. Il est monté, dit l'évangéliste, à la droite de Dieu. C'est exactement ce que nous disons dans le credo que nous allons chanter tout à l'heure. Voyez comme la confession de notre foi colle au plus près de l'Écriture sainte qui nous dit « Il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu le Père ». Ça, c'était la réalité historique qu'il est bon de rappeler. Nous croyons fermement que les évangiles et les actes des apôtres nous rapportent historiquement la vie du Christ. Ce que je vous dis là est une vérité de toujours, et pour ceux qui en doutent encore, pour ceux qui croient que ça serait de l'histoire ancienne, eh bien ils n'ont qu'à aller lire le Concile Vatican II, que peu de gens ont lu à mon avis, dans Dei Verbum, au paragraphe 19, où on dit exactement la citation que je vous dis, « Nous croyons fermement à l'historicité des faits rapportés par la Sainte Écriture dans les évangiles et les actes des apôtres ». Mais il y a plus encore, bien sûr, car cette réalité historique est le support d'une réalité théologique extraordinaire. Le Seigneur est monté au ciel, c'est-à-dire qu'il a recouvré son état normal, en quelque sorte, comme il l'a eu, comme il l'a montré de manière furtive à ses apôtres Pierre, Jacques et Jean au moment de la transfiguration. D'ailleurs, il y a un parallèle ici évident, il est élevé au ciel, il était transfiguré, et il y avait Moïse et Élie à la transfiguration. Il y a deux hommes qui, de part et d'autre, qui sont en blanc, deux anges, deux saints, qu'importe, des envoyés du Seigneur en tout cas, qui attestent qu'il s'agit bien d'une vision divine. Et oui, ce que le Seigneur a montré de manière furtive à la transfiguration, maintenant il va en vivre éternellement. Mais vous allez me dire, c'est peut-être tout simplement qu'il est redevenu comme il était avant. Oui, bien sûr, il n'a jamais quitté la gloire de son Père. Mais il y a quelque chose qui change. Maintenant, ce qui change, c'est qu'il y est monté avec son corps humain. C'est-à-dire que son corps de chair, qui est pareil au mien, pauvre, faible, eh bien ce corps-là est transfiguré. Ce corps-là est monté entièrement au ciel. Le Seigneur a recouvré sa place auprès de Dieu, mais il l'a recouvré avec son corps de chair. Et c'est pour moi extraordinaire de savoir que le même corps qui est le mien va pouvoir être lui aussi, puisqu'il l'est transfiguré dans son Seigneur, être glorifié. Il ne me reste plus qu'une chose, à m'agréger à ce corps mystique du Christ qui se donne à moi. Car le Christ est la tête du corps. Le Christ est la tête de l'Église, nous dit saint Paul. Et cette tête, elle est passée au ciel. Et là où est passée la tête, là passera le reste du corps. Un adage tout simple qui vient des sages-femmes et une sagesse populaire. Là où la tête est passée, le reste passera aussi. Le Christ, notre tête, est passé au ciel, il est glorifié. Nous, pauvres membres mortels de ce corps mystique du Christ, nous espérons bien, nous aussi, être glorifiés. La fête d'aujourd'hui est une fête extraordinaire, non pas tant à cause d'un miracle qu'à cause de la promesse qui nous est faite qu'en nous agrégeant au Christ, en communiant dans cette blancheur qui descend jusqu'à nous, nous allons être montés dans la blancheur de Dieu, dans l'éternelle lumière qui va nous changer, nous transfigurer, nous purifier et nous glorifier. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'est la fête d'aujourd'hui. L'ascension, c'est déjà les arts de notre propre glorification dans le Christ. Si nous mourons avec lui nous régnerons, avec lui nous serons glorifiés. C'était donc mon premier point, le Christ monte au ciel. Que nous reste-t-il à faire, puisque le Christ a opéré? Eh bien, il nous reste peu de choses, mais il nous faut le faire. Nos yeux sont fixés vers le ciel, bien entendu, mais nous avons encore les pieds sur terre. Et c'est le petit paradoxe, vous avez peut-être vu, de la réponse de ces deux hommes en blanc, de ces deux anges, qui disent aux apôtres, qui viennent de voir monter le Seigneur et qui regardent le ciel, ils leur disent « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» Sous-entendu, ça sert à rien. Et puis, la deuxième phrase, toute paradoxale, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ?» Celui qui est monté au ciel redescendra de la même façon. Alors, faut-il regarder le ciel ou ne faut-il pas regarder le ciel? Eh bien, il y a là une subtilité très fine. Il faut regarder le ciel et garder les pieds sur terre. D'abord, il nous faut regarder le ciel. C'est-à-dire qu'il nous faut désirer le ciel. Il nous faut vouloir le ciel, la vie éternelle. Combien sont mesquins et petits les regards de ce monde. Autour de nous, des pauvres gens qui n'y sont pour rien, on leur a abîmé les yeux. Vous savez, comme aux chevaux à qui on met des œillères pour qu'ils ne regardent ni à droite ni à gauche. Mais ça, c'est utile, c'est pour qu'ils ne prennent pas peur. Mais nous, j'ai l'impression qu'on nous a collé des œillères, mais dans l'autre sens, voyez-vous, pour que nous ne puissions regarder que nos pieds, que nous ne puissions regarder que par terre, que nous ne puissions regarder que les choses de ce monde, l'argent, le pouvoir, les rixes, les guerres, etc. Pour nous empêcher de regarder le ciel, il nous faut regarder au ciel, il nous faut contempler le commerce des saints, il nous faut regarder la Trinité qui vit dans sa béatitude, car c'est notre promesse, nous y sommes appelés. Les enfants de Fatima, une fois de plus, j'y fais appel, lorsqu'ils voient la Sainte Vierge, que croyez-vous qu'ils lui ont demandé? Ils lui ont demandé si ils auraient un beau métier, s'ils auraient de l'argent, s'ils auraient une voiture, s'ils auraient un cheval plutôt à leur époque, que sais-je? Non. Ce qu'ils ont demandé à la Sainte Vierge, la première demande qu'ils lui font, est-ce que nous irons au ciel? Puisqu'elle leur dit, je suis du ciel. Et la question des enfants, c'est, et nous? Est-ce que nous aussi nous irons au ciel? Magnifique question de ces enfants qui doit monter de nos cœurs, qui malheureusement a été éteinte bien de manière plus terrible encore et plus effroyable que d'éteindre le cierge pascal. C'est un signe pour nous qu'il n'est plus là mais qu'il va de nouveau nous être insufflé. La promesse qui est faite durant ces 10 jours qui nous séparent de la Pentecôte, c'est que ce départ spirituel va nous valoir un cadeau spirituel, la venue du Saint-Esprit de Dieu. Oui, il nous faut désirer le ciel, car c'est avec la vision surnaturelle que ce monde est beau. Tout comme les anges, je ne vous incite pas à regarder benoîtement au ciel. Je vous invite à y regarder avec béatitude. Je vous invite à regarder le ciel pour pouvoir mieux regarder la terre. Prenez de la hauteur, ne vivez pas enfermés dans ce monde, contempler le monde et sa beauté, car la beauté du monde, c'est ce qui va le monter vers Dieu. Il n'y a que du haut du ciel que vous arriverez, en vous dégageant un peu des contingences matérielles, à voir cette beauté ici-bas, terrestre, celle de la création. Alors oui, il nous faut garder les yeux au ciel, mais il nous faut garder les pieds sur terre. Il ne s'agit pas de vivre d'illusions. Saint Ignace de Loyola, tout en fondant la compagnie avec ses premiers compagnons, la compagnie de Jésus, eh bien, il avait fait un vœu, c'était d'aller à Jérusalem. C'était d'aller à Jérusalem, et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il voulait aller contempler la pierre d'où le Seigneur s'est élevé au ciel. Pour lui, à Jérusalem, c'était bien sûr tous les lieux saints, mais le plus important, c'était de voir la pierre d'où le Seigneur est parti. C'est-à-dire, c'est à la fois la manière de regarder le ciel et en même temps de se dire que c'est bien de la terre que ça va se faire. Or, justement, c'est à partir de la terre que nous allons monter au ciel. Et votre rôle, tout particulièrement, à vous les laïcs, c'est de sanctifier ce monde, c'est de le réordonner, de le tourner vers le ciel. Oui, il ne s'agit pas de rêvasser ou d'être en dehors du monde, c'est l'inverse. Vous avez charge de remettre le monde dans le bon ordre de marche, c'est-à-dire vers Dieu. En pratiquant la charité, en redressant par la vertu les torts et les choses tortueuses de ce monde, vous allez le remettre dans le bon sens, le préparer à la Jérusalem céleste, amener le monde au pied de cet autel où le Seigneur va descendre. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Il nous faut mettre le monde en ordre et enfin annoncer l'Évangile, le royaume de Dieu qui vient. Oui, c'est le plus urgent. Je suis fâché quand j'entends qu'un enfant né, qu'on nous dit qu'il pèse 3,57,1215, qu'il est né à 6h51,10 secondes, on s'en fout. La vraie question quand un enfant naît, c'est de savoir quand va-t-on le baptiser ? Quand va-t-on lui donner le ciel ? Alors il faut que cela vous soucie. Les parents, les grands-parents, les oncles, les grands-oncles, les grands-tantes, quand un enfant vient, il faut lui donner le ciel. Et oui, c'est urgent. Je finirai par une anecdote qui m'est arrivée un jour que j'étais à une émission de télévision sur le baptême, justement, et le présentateur, très gentil par ailleurs et fort cultivé, me dit « Bon, voilà, alors j'avais choisi ce texte, allez par le monde entier, faites des disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est chez saint Matthieu, hein, et ici, celui qui sera baptisé et croira sera sauvé, celui qui refusera de croire, dit saint Matthieu, dit saint Marc, dit celui qui ne croira pas, sera pas baptisé, sera condamné. » Et alors le journaliste de me dire « Bon, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore le faire ? Enfin, il y a le bouddhisme, il y a plein de religions, il y a l'hindouisme. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas... Aujourd'hui, l'Église a pris un peu de distance avec tout ça et sont plein de chemins de connaître Dieu. Est-ce qu'il faut absolument baptiser ? Eh bien oui, il faut absolument baptiser. Et la meilleure réponse que j'ai pu lui trouver, c'est que dans le droit canonique, le baptême peut être administré par tout le monde. C'est tellement important le baptême, c'est tellement essentiel, vous le savez, que si vous vous trouviez en face d'une personne mourante, ou si vous étiez dans un pays où il n'y a pas de prêtre et qu'on ne peut pas y recourir, alors chacun d'entre vous, vous seriez capable de baptiser un enfant ou un adulte. Vous seriez capable de produire ce geste très humain qui le fait entrer au ciel. Oui. Nous n'avons pas changé. Ce que nous voulons pour le monde, c'est la béatitude, et nous savons que ce bonheur éternel, il nous est donné à travers le sacrement du baptême et la foi dans le Christ. Alors, mes bien chers frères, voilà ce qu'il faut espérer dans cette neuvaine du Saint-Esprit que je vous engage à suivre jusqu'à la Pentecôte, afin de pouvoir entrer dans la démarche de Dieu, celle qui vous mènera à Chartres, je l'espère, où je vous attends. Entrez dans cette démarche profonde et grande qui fera de vous les coopérateurs du Christ pour la venue du salut du monde. Ainsi soit-il.